Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission qui vous propose eh bien, des chroniques de films qui sortent sur les écrans et puis aussi un blind test. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Un blind test qui sera sur le thème des acteurs ou actrices qui passent derrière la caméra, qui deviennent réalisateurs ou réalisatrices, parce que toi Guillaume, tu vas nous parler d'un premier film d'un acteur.
C'est ça, c'est L'Origine du Monde de Laurent Lafitte.
Quant à toi Manu, c'est une histoire de Marie Vaudin. Premier film.
Les Amours d'Anaïs, et puis je vous parlerai aussi du dernier film de Soderbergh, No Sudden Move.
Quant à moi, je vous parlerai du Genou d'Aide de Nadav Lapid, prix du jury à Cannes 2021. Mais nous allons commencer avec Dune. David Lynch s'y était attaqué, mais a depuis renié son adaptation de Dune, roman fleuve de Frank Herbert. C'est maintenant au tour de Denis Villeneuve de s'y coller.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait. Judicieux. Simple. Et logique. Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux.
Dune fait partie de ces œuvres romanesques réputées inadaptables ou en tout cas mal adaptées. Alors c'était le cas avec le film de 1984 de David Lynch. On se réjouit que Denis Villeneuve, qui caressait ce rêve d'adapter le roman de Frank Herbert, ait décidé de le faire non pas une fois, mais deux, car son adaptation sera bien en deux parties. Enfin, on l'espère, parce qu'il y a un bras de fer avec la Warner qui produit son film. Et c'est donc à la première partie qu'on est convié pour cette rentrée cinématographique. D'emblée, on peut se féliciter du budget alloué pour ce film, qui permet aux réalisateurs québécois d'offrir un spectacle visuel captivant entre les vaisseaux massifs et ceux plus fins représentant presque des libellules et puis les fameux vers qui arpentent le désert d'Arrakis, la planète où l'on extrait l'épice, une substance qui a des vertus psychotropes et puis qui est essentielle à la navigation interstellaire. Alors du début à la fin, cet univers apparaît cohérent, ce qui est indispensable pour un film de science-fiction.
L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreides accepte.
Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit.
Tu dois affronter tes peurs.
Denis Villeneuve prend le parti de la tragédie, évidemment, car dans Dune, cette affaire de politique, de bataille, de trahison, de rébellion, mais aussi de grand destin. Alors on résume, l'empereur impose les Atreides sur Arrakis au détriment des Harkonnen qui sont de véritables tyrans. Mais c'est pour mieux s'en débarrasser. Alors il y a ceux qui savent, ceux qui conspirent, et puis celui qui a des visions. Il s'agit du jeune Paul Atreides, Timothée Chalamet, parfait dans ce rôle. Et puis l'enjeu de cette première partie pour le futur duc des Atreides est de devenir un homme du désert, d'assumer la posture d'élu pour conduire, pourquoi pas, les Fremen, les autochtones d'Arrakis, qui se font sans cesse ratatiner par les récoltants de l'épice. Il pourrait les mener jusqu'à la lutte finale. Comme Villeneuve prend le temps, 2h38 quand même pour une partie, le spectateur a l'avantage de mieux appréhender les différents personnages et leurs motivations. Le réalisateur parvient également à parler de notre monde en pointant le souci écologique d'une planète dominée par le désert où ses habitants cherchent à extraire l'eau du corps de leurs victimes plus que toute autre chose. Une thématique présente déjà dans le roman initial. La mise en scène est limpide entre les séquences où le dialogue émerge, les moments d'action qui ne sont jamais trop longs et les séquences contemplatives. Dune parvient à s'arracher du blockbuster décérébré et mérite son passage au cinéma. C'est encore très surprenant que la Warner ait décidé de sortir en VOD sur HBO Max, sachant que les copies vont pulluler sur Internet. Et pour l'avoir vu en IMAX, je confirme que Dune est un film de cinéma à voir au cinéma.
Un grand homme ne cherche pas à diriger. Il est appelé à diriger. Mais si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils.
Ton destin t'appelle.
Dune de Denis Villeneuve est en salle depuis le 15 septembre. Autre budget pour ce film, Les Amours d'Anaïs, de Charline Bourgeois-Taquet, du Marivaudage, avec Anaïs Desmoustiers et Denis Podalydès. C'est toi, Manu, qui nous en parle.
Tu me vois quand t'as le temps, tu me cases, t'avances comme un bulldozer.
Oui, je sais, je suis un gros tracteur, tu me l'as déjà dit.
Bonsoir,
Daniel Moreau-Babin.
Anaïs. En fait, je vais vous retrouver là-haut, ça vous dérange pas?
Derrière le titre, on ne peut plus remettre rien, référence écrasante à l'évidence quelque peu trompeuse, se dissimule une comédie sentimentale inégale, aussi agaçante qu'attachante. Alors le regard positif ou négatif des amours d'Anaïs ressenti par le spectateur est principalement lié à l'empathie qu'il peut nouer ou va nouer avec le personnage principal, Anaïs, électron libre en mouvement perpétuel. Alors non seulement elle est quasiment de tous les plans, mais elle occupe l'espace physique et mental aussi avec une énergie éreintante. Alors dès les premiers plans, elle s'agite dans tous les sens, recevant alors la visite de la propriétaire de son appartement. À tout moment, on s'attend à ce qu'elle se cogne contre la caméra. La jeune femme est en retard de paiement de loyer par un débit de parole ininterrompu, sans se poser le moins du monde. Elle part dans des explications farfelues, cherchant consciemment ou non à détourner l'attention d'une propriétaire pourtant très conciliante. Alors en 5 minutes, Charline Bourgeois-Taquet nous invite à partager les aventures cocasses de son héroïne fofolle, jeune étudiante fauchée, intelligente et en sur-régime, qui veut croquer la vie à pleines dents au point d'en oublier les autres parfois. Elle a un amoureux qu'elle n'est pas très sûre d'aimer, ce qui nous vaut une séquence très amusante où elle lui annonce qu'elle est enceinte et va se faire avorter, comme si elle énonçait une liste de courses. Puis elle rencontre Daniel, de 30 ans son aîné, et tombe sous son charme. Daniel est marié à Émilie, écrivaine reconnue, qui plaît également à Anaïs. Alors énoncé ainsi, on en revient à Romère. Pourtant, la comparaison s'arrête à quelques grandes lignes du récit. Le scénario ne vise pas la mécanique parfaite de l'auteur de Pauline à la plage, où aucun détail n'est laissé au hasard. Il n'est pas construit ni pensé comme un marivaudage. Les événements se succèdent de manière très linéaire. La réalisatrice est au service de son personnage principal. Elle ne le lâche pas, la caméra étant constamment à ses trousses. Les rares fois où Anaïs n'apparaît pas, elle est toutefois présente en hors-champ, lors de champ contre champ, d'ailleurs quelque peu paresseux.
Bonjour, je suis Anaïs.
Ah oui, Anaïs.
Je suis venue parce que j'ai envie de vous voir.
D'accord.
Je vais te demander un truc qui va te sembler incongru. Je veux pas être emphatique ou grandiloquente, mais enfin, tu as mon destin entre les mains.
Putain, mais qu'est-ce que tu racontes?
J'ai besoin de me retrouver seule avec Émilie. Vous voulez pas qu'on se promène?
Vous écrivez sur quoi?
Vous êtes indiscrète.
Daniel?
On peut savoir ce que tu fais là? J'ai pas de compte à te rendre sur les visites que je fais à ma femme.
Ma femme? C'est quoi ce sentiment de propriété inadmissible? Elle est pas à toi, Émilie. Hein. Vous êtes même pas mariée en plus.
Non mais on est vraiment chez les dingues.
Vous êtes qui, Anaïs?
Charline Bourgeois-Taquet, qui signe son premier long métrage après un court remarqué, Pauline asservie, a essayé de filmer à travers Anaïs une certaine idée du désir, le fait de prendre la vie comme elle vient, à bras le corps, sans trop se poser de questions. À 30 ans, Anaïs peut tomber amoureuse aussi bien d'un homme âgé que d'une femme mûre. La réalisatrice parvient à donner un vrai rythme de comédie à ce joli portrait, drôle et tendre, faussement superficiel, derrière son récit un peu éthéré. Alors elle possède le sens du détail, du dialogue, joue habilement sur les situations décalées. La direction d'acteur est sans doute l'une des clés de la petite réussite de ce film au charme sans doute éphémère. Alors évidemment, Anaïs Desmoustiers porte littéralement le film sur ses épaules et il faut toute la grâce et la justesse de jeu de cette comédienne talentueuse pour qu'elle parvienne à rendre si sympathique un personnage que l'on trouverait sans doute exécrable dans la vraie vie. Face à elle, Denis Podalydès et surtout Valeria Tedeschi-Bruni sont les parfaits contrepoints, incarnant des personnages posés et réfléchis, alors presque statiques, je dirais, comme pour apaiser, canaliser la vitalité débordante d'Anaïs qui, derrière sa bonne humeur constante, cache des fêlures, des doutes et des angoisses. Alors il manque à ce premier film une mise en scène plus mordante, moins répétitive et nonchalante. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de suivre comme ça à travers des plans séquences de A à Z son héroïne qu'il faut perdre de vue une dimension formelle, se laisser un peu trop happer par le charme discret de cette silhouette joliment croquée. Mais ne soyons pas trop durs, les amours d'Anaïs possèdent les défauts et les qualités, je dirais, assez courants d'un premier film. On va dire que c'est une jolie fantaisie qui cache quelques rares moments de gravité, mais pas assez exploité à mon sens.
Les Amours d'Anaïs de Charline Bourgeois-Taquet est en salle depuis le 15 septembre. Il aurait dû sortir à l'automne 2020, mais la situation sanitaire en a décidé autrement. Le premier film de Laurent Lafitte, L'Origine du Monde, est enfin sur les écrans. Et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Écoute mon cœur. Je t'écoute. Non, écoute mon cœur. Ah, oui. Alors...
Qu'est-ce qui m'arrive ?
Je comprends rien. C'est ahurissant. Ton cœur ne bat plus.
C'est grave ?
Disons que quand on est mort, c'est pas grave. Mais étant donné que t'as l'air vivant, c'est préoccupant. Je vais être réanimé.
Mais je suis animé.
Et un de plus. Alors comme on l'a dit dans l'introduction, Laurent Lafitte est le petit dernier à venir gonfler les rangs des acteurs français qui décident de passer à la réalisation. Alors après des noms plus ou moins illustres comme Michel Blanc, Julien Balasco, Alain Chabat, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Mélanie Laurent, Michael Youn ou encore Maïwenn, il n'y a pas une année qui passe sans que la frontière ne soit franchie entre les deux professions artistiques. Alors pourquoi ce constat en guise de prélude, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que l'on remarque que la quasi-totalité de ces gens optent presque toujours pour la catégorie la plus rentable du cinéma hexagonal, celle qui permet de survivre malgré les échecs grâce aux investissements des chaînes de télévision qui cherchent à alimenter leur prime time, la sacro-sainte comédie susceptible de rassembler les familles devant le grand comme le petit écran. Oui, mais voilà, avec L'Origine du Monde, Lafitte se démarque un petit peu de ses camarades, la plupart du temps interchangeables, en optant pour une comédie plus crue que la moyenne. Comprendre, cette fois-ci, on mouille la chemise pour mieux la retirer en cours de route. L'Origine du Monde est une adaptation de la pièce de théâtre du même nom, de Sébastien Thierry, second ou troisième rôle récurrent au cinéma, et lui aussi passé à la réalisation avec le complètement passé inaperçu Momo, en 2017. Alors séduit par sa plume, Lafitte décide d'en faire son premier film, et on peut comprendre ce qui l'a convaincu. Il a d'un côté un personnage lassé de tout, pas heureux pour un sou alors qu'il ne manque de rien, permettant une réflexion sur ce qui procure une vraie paix de l'esprit face aux apparences. De l'autre, il a là un terreau fertile en bêtises de tout genre, puisque le ton adopté face à ces thématiques plutôt graves est celui de la comédie loufoque qui ne recule devant aucune limite pour pousser ses personnages bien au-delà des barrières de l'absurde.
Il n'y a pas la moindre pulsation, c'est extraordinaire. Votre cœur bat, Jean-Louis.
Bah non, justement, c'est ça le problème.
Pas votre cœur physique. Mais nous avons deux cœurs, le cœur physique et le cœur cosmique.
Voilà.
Valérie.
Pardon.
Vous avez un problème avec votre mère.
Ah bon ?
Il va falloir que vous reveniez ici avec elle.
Vous voulez voir ma mère ?
La source de votre mère.
La source de ma mère ? C'est quoi ça, la source de ma mère ?
L'endroit où vous êtes apparu.
Ah, bah... Mais je suis apparu comme tout le monde par son...
Oui, je dois le voir.
Son vagin.
Alors une photo.
Vous croyez sérieusement que j'ai des photos du sexe de ma mère ?
Alors vous devez prendre la photo.
C'est impossible, je peux pas...
Allez, au revoir.
Non, attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça.
Vous avez 3 jours. Dans 3 jours, vous êtes mort.
Le réalisateur multiplie le plus possible les tentatives d'exploser le carcan de la pièce de théâtre filmée, mais on reste quand même visuellement sur quelque chose de très sage, assez proche de Désiré de Bernard Murat avec notre cher Jean-Paul Belmondo. On est plus dans la caméra en mouvement pour donner de l'ampleur aux échanges dialogués que dans la véritable construction narrative proprement cinématographique, à l'exception de 2 séquences oniriques amusantes qui sortent de la rigidité huppée parisienne. Alors Jean-Louis, joué par Lafitte, constate un beau jour que son cœur ne bat plus et va essayer par tous les moyens de comprendre comment il est passé d'homme blasé à phénomène clinique inédit. La femme de Jean-Louis, Valérie, dont jouée par Karine Viard, ne trouve rien de mieux que de le faire ausculter par Margot, Nicole Garcia, une coach de vie New Age qui a bien compris comment faire facturer 500€ une consultation en profitant de la crédulité spirituelle des bobos en manque de vie intérieure. Et bien évidemment, même s'il est réticent au début, le couple va essayer par tous les moyens de mettre en application ses conseils, à savoir à prendre en photo le lieu de naissance de Jean-Louis, cette zone nommée l'origine du monde par le peintre Gustave Courbet, l'entrejambe de sa mère, Brigitte, jouée par Hélène Vincent. Bien évidemment, à cette tâche fort compliquée se greffe le fait que Jean-Louis n'est pas forcément très proche de sa mère, car la dernière fois qu'il l'a vue, c'était il y a 4 ans. À ce duo déjà bien frappé, vient se greffer le meilleur ami de notre anti-héros, Michel, joué par Vincent Macaigne, un vétérinaire bedonnant qui va servir de pare-choc dans cette entreprise obscène. En route pour la catastrophe annoncée de l'entreprise.
Ah oui ! Ah ! Ah ! On pourrait partir le week-end prochain.
Ah, où ça ?
Je sais pas. Trouville ?
La banlieue de Deauville.
On se prend un petit hôtel sympa, resto sur le port, plateau de fruits de mer,
t'as joué ?
Balade, massage.
T'as joué ?
Comment ça ?
Je te demande si t'as joué.
Bah oui, je sais pas, t'as pas entendu ?
Si, j'ai entendu.
Bon bah alors ?
Non mais moi j'ai pas joué, tu vois.
Ah.
Et puis tu parles tout le temps après l'amour. Tu sais pas, tu piapiates, quoi. Tu peux... T'es tout excité.
Non mais attends, excuse-moi, c'est quoi ce reproche ? T'as envie de me faire chier ou quoi ? Pardon d'avoir la pêche ? Oui, j'ai la pêche, oui.
Oui, bah oui, t'as la pêche, oui. T'as la pêche de quelqu'un qui s'est débarrassé d'une corvée.
Eh bah tu préférais que je fasse la gueule ?
Bah ouais, franchement, peut-être que je préférais que tu fasses la gueule. J'ai vraiment l'impression de vivre une mascarade. Mmh. Et puis j'en ai marre de peser dans le noir.
Ouais, bah c'est toi qui veux toujours éteindre, je te signale.
Eh bah ça m'aide.
Le plaisir que l'on retire de L'Origine du Monde, hein, bon, si je peux m'exprimer ainsi, n'est pas tellement dans la résolution de son intrigue, car si vous êtes attentif, vous aurez un peu tout compris dès le départ. Hein. Du titre au fait que notre anti-héros ne soit pas bien dans sa peau et a un léger souci avec les femmes, on se rend bien sûr très vite compte que tout est lié à sa mère, jusqu'aux secrets de famille enfouis, et qui permettront de découvrir la clé nécessaire à la résolution de l'affaire. Non, ce qui marque, c'est l'aisance de Lafitte à embrasser l'aspect crapuleux de son histoire et d'y aller à fond, quitte à faire grincer quelques dents. Alors, on parlait de comédie française facile, hein, et de retirer son maillot en ouverture, et bien, pas sûr que le film soit diffusé en prime time, justement, car Lafitte et son casting n'hésitent pas à donner de leur personne en se mettant littéralement à nu pour les besoins d'une scène ubuesque où tout ce petit monde essaie de convaincre la pauvre Hélène Vincent de se déshabiller pour immortaliser sur Polaroid son intimité. Alors le choix d'Hélène Vincent, il a ce sujet très bien pensé, car on se rappelle de son portrait déjà de mère indigne dans Le Bernie d'Albert Dupontel, et elle apporte toute la dualité nécessaire à cette femme que l'on plaint au début et qui va révéler des zones d'ombre pas forcément reluisantes. Alors dans sa volonté d'être grossier et grinçant, L'Origine du Monde s'inscrit plus dans la tradition de la comédie italienne que française, mais pas celle plus sophistiquée d'un Dino Risi, mais plutôt d'un Pasquale Festa Campanile et de son Ma femme est un violon. Alors certes, Karine Viard et Vincent Mackay ne sont pas des Laurent Antonelli, hein, mais c'est tout à l'honneur de Lafitte d'avoir voulu bousculer tout son petit monde.
L'Origine du Monde, donc premier film de Laurent Lafitte, est en salle depuis le 15 septembre et donc position derrière la caméra de l'acteur Laurent Lafitte nous donne l'occasion de jouer un blind test où il va falloir découvrir 5 titres de films avec soit des acteurs, soit des actrices qui sont devenus réalisateurs.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Le but du jeu, chers messieurs, chers auditeurs, il est simple, donc 5 titres de films avec des acteurs ou des actrices qui sont donc passés derrière la caméra. Premier extrait.
On apprend à quelqu'un à être réalisateur en un jour ?
On peut apprendre à un macaque à être réalisateur en un jour. Écoute, si tu te lances là-dedans, lance-toi complètement. Les romagnacs sont des fous furieux, mais ils ont des cousins qui vendent des tapis de prière et des cassettes audio sur la Bréa. Tu peux pas créer une couverture autour d'un tournage sans qu'il existe. Il te faut un script, il te faut un producteur.
Je peux pas être producteur ?
Non, t'es un producteur associé, ou mieux. Si tu veux faire une arnaque de Star Wars à 20 millions de dollars, il faut une pointure qui soit une pointure pour soutenir ton projet. Quelqu'un de respectable. Qui a une carrière. À qui tu peux confier des renseignements top secrets. Qui produira un film bidon. Gratos.
C'était trouvé, Menu, sur le fil.
Argo.
Oui, oui, de Ben Affleck. Film de 2012 avec la Ben Affleck, qu'on entend dans sa voix française, et John Goodman, qui lui donne la réplique. Lors de la révolution iranienne, 52 Américains sont pris en otage dans l'ambassade américaine. 6 d'entre eux se réfugient dans l'ambassade canadienne. Et un agent de la CIA va monter un plan pour les faire sortir en montant un projet de film de science-fiction qui n'a pas vocation à être tourné. C'est adapté d'une histoire vraie. Même si bon, y a eu quelques problèmes, beaucoup de personnes se sont plaints comment le scénario a fait varier la réalité. Il y a eu des récompenses, 3 Oscars, et 1,3 million de spectateurs sont allés voir ce film en France. À noter que Ben Affleck a fait 5 films, dont le très remarqué The Town. Deuxième extrait de ce blind test.
L'humanité actuelle vit en répondant à des questions qu'elle ne se pose pas.
Oh, moi, je comprends ce que tu dis. J'ai l'impression d'être con, c'est quand même ça m'énerve. Ah, Marie, ton sextoy musical est arrivé.
Dis donc, tu veux que je t'aide ? Ça te dérange pas de prendre mes enfants pour des cons ? Tu te fous de ma gueule ? Tu crois que je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux ? Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes ! Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes ! 3, soleil ! Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant !
Max ! Dans la chambre, tout de suite ! Dans la chambre !
Alors, vous n'avez pas trouvé, je pensais que vous trouveriez. Alors bon, François Cluzet qui se met en colère, dans quel film ? Dans tous, à peu près.
Les petits mouchoirs de Guillaume Canet.
Film de 2010, avec François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lelouch et Valérie Bonneteau, qu'on entend dans cet extrait, demander à l'enfant Cluzet, hein, du coup, d'aller dans sa chambre. Troisième long métrage de Guillaume Canet, après Mon idole et Ne le dis à personne. À la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide malgré tout de partir en vacances au bord de la mer, comme chaque année. Ils voient ainsi lever les petits mouchoirs qu'ils ont posé sur leurs secrets, leurs mensonges. Et Guillaume Canet, c'est 8 films dont Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu et l'étonnant Rock'n'Roll. 5,4 millions d'entrées pour ces petits mouchoirs. Ce film a fait beaucoup plus d'entrées en France.
Quand je pense qu'un soldat d'élite vient chez moi, sire, chevalier. car je vois bien que vous êtes un chevalier. Vous vous présenterez au capitaine Cargill dans le poste le plus avancé aux marches du royaume, le Fort Sedgwick. Mon sceau personnel sera votre sauvegarde à travers les embûches de cette vaste contrée sauvage et hostile.
Alors ça n'a pas été trouvé, alors c'était pas forcément évident, d'autant que là il n'y avait pas la voix de l'acteur, la version française. C'est un film de 1990, alors c'est un soldat qui est emmené dans un poste avancé. Si je vous dis que ce poste avancé est dans un territoire Sioux...
C'est Danse avec les loups.
Voilà, tout à fait. Danse avec les loups, film de Kevin Costner, donc de 1990. Première réalisation de l'acteur. C'est un film auquel il tient. Il est le producteur, réalisateur et puis l'interprète principal. Il raconte l'histoire d'un jeune lieutenant donc envoyé à un poste de reconnaissance qui se lie d'amitié avec le peuple Sioux au point qu'il est surnommé Danse avec les loups. Et puis un an après la sortie du film en salle, il y a une version longue qui est sortie et qui durait 236 minutes. Avec près d'une heure de scène hein, qui ont été rajoutées à l'occasion. Le film a reçu 7 Oscars, c'était un immense succès, et 7,2 millions d'entrées en France. Il a fait 3 films, Kevin Costner, avec Postman et Open Range. Allez, quatrième extrait de ce blind test où il faut deviner donc un film réalisé par un acteur. Oui,
Anna, tu me donnes ton assiette,
non,
Anna.
I don't want.
Quel casse-couille.
Mais ça va, papa, hein, tu t'es bien servi, c'est ton régime, là, c'est
et
ça?
C'est de la viande maigre, le lapin.
Bon, enfin, quand même, t'as vu ce que tu enfiles.
Et toi, tu as vu ton gros cul?
Mais il est malade, ce mec. Ouais, bah, j'ai un gros cul parce que j'ai arrêté de fumer il y a un an et demi, et voilà. Mais du coup, je recommence
suffit.
À fumer, hein.
Oh,
ça suffit, t'arrêtes de l'emmerder, oui ou merde?
Mais c'est elle qui arrête pas de nous emmerder.
Amélie,
New York, simplement pour nous faire chier.
Nothing to do with you. Arrête, connard.
Non, mais écoutez, on peut être un peu civilisé. Mon mec est à la table, il vient de loin, etc. J'aimerais bien qu'on lui parle un peu.
Eh ben, on va lui parler. À Jack. Allez, on va sur la littérature américaine. Kerouac.
Trouvé.
Deux jours à Paris, de Julie Delpy.
Oui, Two Days in Paris même, hein, tel qu'il a été vendu en France. Oui. Hein. Film de 2007 avec Adam Goldberg et Julie Delpy, française vivant à New York. Marion, 35 ans, revient d'un voyage à Venise avec son petit ami Jack. Il passe deux jours à Paris chez les parents de Marion, mais entre les craintes de Jack qui voit Paris comme une ville dangereuse, les réactions des parents de Marion... qu'on entend ici, et les rencontres d'ex de cette dernière, eh bien le séjour n'est pas facile. Il s'agit d'une réflexion sentimentale déguisée sous une comédie alors crue, politiquement incorrecte et souvent juste. C'est un extrait qu'on passe d'ailleurs régulièrement dans cette émission pour dès que j'en ai l'occasion, je le diffuse. Et j'adore les réalisations de Julie Delpy. Malheureusement, 216 000 entrées en France seulement pour la réalisatrice qui a fait alors une suite en 2012 et qui s'intitulait Two Days in New York. Et puis elle a fait 8 films, hein, dont My Zoé qui est sorti en juin dernier. Et puis par exemple La Comtesse. Dernier extrait de ce blind test.
Si j'ai fait quoi que ce soit qui puisse te faire croire que ce qui vient de se passer entre nous n'a rien de nouveau pour moi, il n'est qu'une habitude comme une autre. Alors, je te fais mes excuses.
Qu'est-ce qui fait la différence, Robert?
C'est simplement que quand je pense pourquoi je fais des photos, la seule raison qui me vient à l'idée, c'est que ça devait être pour faire mon chemin jusqu'ici.
Trouvé, Guillaume.
C'est Sur la route de Madison, de Clint Eastwood.
Oui, film de 1995 avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Alors là, ce n'est pas la voix habituelle française de Clint Eastwood, mais c'est exprès que j'ai gardé ça, parce que sinon, c'est trop facile. Mikael Johnson et sa sœur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance, régler la succession de leur mère. Francesca, ils vont découvrir tout un pan de la vie de leur mère, ignoré de tous. Sa brève, intense et inoubliable liaison avec un photographe de passage, 1,4 million d'entrées en France, et puis plus de 30 films. Pour Clint Eastwood, il fallait en choisir un. J'ai choisi celui-ci, mais j'aurais pu en choisir bien d'autres. Ainsi se referme ce blind test. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau. Prix du jury à Cannes 2021. Le genou d'Aed est un cri de colère.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Présenté en compétition au Festival de Cannes 2021, le genou d'Aed de Nadav Lapid a obtenu le prix du jury ex aequo avec Memoria d'Apichapong ou Warazeta Cool. Ce film s'inspire de l'expérience même du réalisateur israélien qui, il y a 3 ans, avait été invité par la directrice adjointe des bibliothèques d'Israël au ministère de la Culture à présenter son film, l'institutrice, à la bibliothèque de Sapir, un petit village de la région de l'Arava. Alors pour présenter son film, il devait signer un document dans lequel il s'engageait à ne parler que de certains sujets, et les sujets trop polémiques, hostiles au régime israélien, étaient était écarté. Alors il a fait ce qu'on lui demandait, mais l'a regretté au point de vouloir, eh bien, dans ce film, le genou d'Aed, présenter un réalisateur qui décide de ne pas se laisser faire. Alors précisons que la ministre de la Culture a initié la loi pour la loyauté de la culture qui interdit le financement d'une œuvre d'art jugée infidèle à l'État. C'est donc un personnage, un réalisateur du nom de Y que l'on suit, présentant un de ses films à la population du village, il va décider d'affronter ceux qui l'accueillent, quitte à se mettre à dos l'assistance. Alors qu'importe de laisser sur le carreau la jeune déléguée à la culture, hein, jugeant la politique de son pays liberticide et injustifiée, il va, après un moment d'interrogation quand même, eh bien, éclater. Dans ce contexte, le titre du film Le genou d'Aed fait référence à Aed Tamimi, une adolescente palestinienne contestataire qui habitait dans un petit village de Cisjordanie alors que des soldats sont entrés un jour dans sa maison. Elle a giflé l'un d'eux et pour cela, elle a été emprisonnée pendant 9 mois à seulement 16 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur Twitter, un député israélien avait déclaré qu'il aurait fallu lui tirer dessus, ne fût-ce que dans le genou. Au moins, elle aurait été assignée à résidence pour le reste de sa vie. Charmant. Le titre est aussi un hommage à Romère avec le genou de Claire, celui-ci. La présence de cette jeune femme n'est mentionnée que parce que le réalisateur prépare un film sur elle, mais cela reste secondaire. C'est avant tout le combat du réalisateur et son refus de plier qui devient le sujet du film, tout autant que le portrait d'un pays essayant de tenir les artistes en les muselant et qui gouverne par la peur. Alors il ressort de tout cela que Le genou d'Aed n'est pas un film facile. Il déploie un argument politique fort dans une forme qui se partage alors entre aridité, comme la région que le côtoie, et la radicalité avec une forme qui n'hésite pas à employer des décrochements de caméra comme si quelque chose octait. Alors il s'agit d'une pulsation douloureuse qu'il nous est donné de voir avec un personnage en colère. Si le corps est en jeu, c'est un film qui est surtout très bavard. La forme est volontiers donc expérimentale, je l'ai déjà dit. Et pour ceux qui aiment bien être guidés, bien mieux vaut passer son chemin car Le genou d'Aed fait partie de ces films qui demandent une attention, une patience et un regard. Pour ceux qui sont farouchement opposés à l'État d'Israël, ce film apportera sans doute beaucoup d'eau à leur moulin. Le genou d'Aed de Nadav Lapid est en salle depuis le 15 septembre. Parlons maintenant d'un film avec un beau casting, c'est celui de Soderbergh, directement dédié à la VOD et sur MyCanal en France, No Sudden Move.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Alors le nouveau Steven Soderbergh, plus prolifique que jamais, ne sort pas en salle et passe donc directement par la case VOD. Alors tourné pendant la pandémie, No Sudden Move affiche un casting impressionnant, alors dont Benicio del Toro, Don Cheadle, le revenant Brenda Fraser dans un... Alors méconnaissable, il a énormément grossi. Il y a aussi Ray Liotta, alors au service d'une classique série noire dans la lignée du Grand Sommeil ou Chinatown, avec comme petite rengaine, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Alors pourtant, le film démarre de façon très limpide, présentant une galerie de personnages qui ne devaient pas se rencontrer. L'action se passe en 1950 à Détroit. Kurt Goyne vient de sortir de prison, il a besoin d'argent, il décroche un contrat a priori facile. Avec deux autres criminels, il doit détenir une famille en otage dans leur maison pendant 3 heures. Après ça, il pourra empocher $5,000. Alors facile comme job en apparence, évidemment, rien ne va se passer comme prévu pour le grand bonheur des fans de polar alambiqué. Alors peut-être un peu trop d'ailleurs, car à force de tordre son récit, Soderbergh casse sans cesse le rythme de son film rutilant par intermittents somptueux visuellement, égrenés de trouvailles formelles excitantes, mais aussi d'effets inutiles et gratuits. La photographie tout en clair-obscur est magnifique et valorise une succession de cadrages sophistiqués et ingénieux, mais contrairement au Chinatown de Polanski, No Sudden Move a du mal à s'élever au-dessus de l'exercice de style brillant mais vain, en dépit d'un surprenant discours écolo et on va dire un peu anticapitaliste lié au vol de documents. Steven Soderbergh s'amuse mais ne fait que s'amuser, survole un peu son film superficiellement avec un certain cynisme. Alors son talent n'est pas en cause mais il semble désimpliqué, comme ça lui arrive parfois, se contentant d'appliquer les règles du film noir à l'ancienne. No Sudden Move manque un peu de chair et d'âme et se regarde avec plaisir mais aussi parfois avec un ennui poli. Les personnages ne sont pas très intéressants, silhouettes interchangeables, prêts à tout pour duper l'autre. Et la mise en scène, même dans ces moments virtuoses, par son côté purement artificiel, ne parvient pas toujours à transcender son scénario qui me semble parfois un peu brouillon et un peu plat en fait.
Moi, j'ai plutôt apprécié ce film.
Fan de Soderbergh.
Oui, je suis un fan de Soderbergh, mais je me suis attaché au personnage et je trouve quelques scènes jubilatoires. En tout cas, ce film est présent sur MyCanal en exclusivité.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien, voilà. On s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Ainsi se referme cette émission. La semaine prochaine, eh bien, nous vous parlerons au moins de la Troisième Guerre et puis d'un autre film à nu.
Perdita Durango, hein, un film inédit en salle de 97 de Alex de la Iglesia.
À la semaine prochaine.